Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime, émission préparée par Perrine Suquet et Laure Boulard, avec la collaboration de Chantal Gramin pour les archives sonores de la rédaction d'RTL. C'est Philippe Duval qui est aux manettes techniques de notre émission. Et aujourd'hui à la une, c'est d'une certaine manière la guerre des clans en Corse à l'occasion de ce procès fleuve qui s'est ouvert le 11 mai dernier à Aix-en-Provence, qui va se terminer le 3 juillet. Pour une série d'assassinats et de tentatives d'assassinats qui remontent à l'année 2009. On va essayer de sortir des images d'Épinal, essayer de retrouver notre latin, si j'ose dire, parce que c'est facile de le perdre quand on plonge dans les arcanes et les coulisses du grand banditisme en Corse. On va le faire avec mes deux invités. Jacques Folleroux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste d'investissement au Monde, et vous étiez venu d'ailleurs pour parler de ce livre il y a quelque temps, l'auteur de La guerre des parrains corses. C'est un livre qu'on peut trouver maintenant en édition poche chez J'ai lu. Et puis près de vous, Damien Delceni. Bonjour Damien.
Bonjour Jacques.
Journaliste ici à RTL au service police-justice, et vous aviez d'ailleurs suivi pour un de nos confrères de la presse écrite, hein, pour ne pas le nommer, c'est le Parisien, l'affaire Orsoni, on va dire, quoi. Les affaires
au sens large.
Les affaires voilà. Alors, avant d'entrer dans le détail de tout cela avec vous, et je me mets à la place des jurés, ça va être très très compliqué pour eux d'y comprendre quelque chose. Je voudrais simplement qu'on commence par entendre un document RTL qui est tout récent, hein, puisqu'il remonte à ce jour du 11 mai 2015 où s'ouvre à Aix-en-Provence le procès. Écoutez, c'est Philippe Corbet qui évoque donc l'ouverture de ce procès dans RTL Matin avec Yves Calvi.
Depuis ce matin, aux assises à Aix-en-Provence, d'un procès de grand banditisme corse.
Oui, à la barre, le jeune Guy Orsoni, jugé avec ses complices pour une série d'assassinats à Ajaccio en 2008-2009, après des années de cavale. Dans la salle d'audience, sa mère, avocate, et son père, Alain, figure corse qui avait dû s'exiler en Amérique centrale pour fuir la guerre nationaliste, où il était devenu le roi des tapis verts avec son ami Castola. De retour en Corse, où il a dirigé jusqu'à récemment le club de foot d'Ajaccio, Alain Orsoni s'est fâché avec Castola, et le fils du premier est donc soupçonné d'avoir tué le deuxième, ainsi que d'autres mafieux de cette bande qu'on appelait la bande du Petit Bar.
Voilà, alors Jacques Folleroux, tout de suite, il faut d'abord dire une chose que vous m'avez dite en arrivant tout à l'heure. Au-delà de ce procès précis, c'est-à-dire on juge 11 personnes qui, à des titres divers, sont soit soupçonnées d'assassinat. D'ailleurs, Alain Orsoni n'est pas mis en examen pour assassinat dans ce procès, mais pour menace de mort. Vous me dites, au-delà de cette affaire qui remonte à 2009, c'est un procès finalement qui ouvre une fenêtre sur les coulisses de cette guerre des clans au sens plus général en Corse. Ça remonte à quand ?
Oui, enfin, si vous voulez, moi, ce qui me semble intéressant avec ce procès, c'est que c'est une vraie fenêtre sur un phénomène qu'on évoque très très épisodiquement. Quand vous avez toute une série d'assassinats spectaculaires, parce qu'ils visent des personnalités, comme un président de CCI, enfin de Chambre de commerce et d'industrie,
un avocat,
etc., et que donc tout d'un coup, le gouvernement, les autorités, pour des raisons essentiellement d'ailleurs de communication, après faut voir quels sont vraiment les actes derrière, vont dire il y a un problème. Il y a un problème qui concerne l'ensemble de la collectivité française. Il y a un phénomène mafieux qui s'est développé sur notre territoire. Vous avez un système parallèle, une force parallèle qui a même soustrait une partie de notre territoire et qui fait pression, qui a une emprise sur une population et sur une économie. Et là, tout d'un coup, et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. C'est-à-dire, vous avez à Aix-en-Provence aujourd'hui, en effet, un examen par la justice de. Après, sur le papier, ça peut apparaître simplement comme des assassinats, et on essaie de trouver le coupable. Mais c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça. Il n'y a pas que cela. Mm-hmm. C'est-à-dire que derrière, c'est aussi le moyen d'apercevoir comment fonctionne la société corse. Vous avez des anciens nationalistes qui forment des clans avec des élus classiques, avec des entrepreneurs, avec des gens qui ont des professions tout à fait honorables. Et vous allez se mêler à ça. Vous allez avoir des enfants nationalistes qui sont devenus des voyous, et vous allez avoir des voyous eux qui vont s'affronter à ce nouveau clan. Mm. Ce que je veux dire, c'est que on s'aperçoit via ce procès que la richesse sur l'île, les intérêts politiques, les intérêts commerciaux sont entre les mains de véritables clans. Et ces clans, ils assurent leur pouvoir, notamment parce qu'ils ont une puissance de feu, donc la violence derrière.
Et évidemment, les uns et les autres disent, on va en parler avec vous tout de suite, Damien Delceni, mais c'est du roman feuilleton, c'est des inventions de journalistes ou d'accusateurs publics. La guerre des clans, c'est du folklore, ça n'existe pas. C'est ce que dit Alain Orsoni. Hein,
il réfute lui déjà le terme de clan. Lui,
oui,
refuse
voilà,
d'être
il
désigné
de clan,
comme un chef
Orsoni,
de clan.
Hein,
voilà, lui, pour lui. Il a plusieurs fois exprimé depuis le début du procès sa détestation des voyous, pour reprendre ses propres termes.
Oui.
Bon, il en reste pas moins qu'effectivement. Alors, ce qui est effectivement intéressant, ce que disait Jacques à l'instant, aussi dans ce procès, dans cette affaire, c'est que c'est le procès des fils aussi beaucoup. C'est-à-dire que on a, pour résumer là-dessus, deux familles Orsoni Castola. Les pères sont très amis pendant toute une période. Ils sont amis, ils sont associés, ils partent ensemble en Amérique centrale pour fuir le bain de sang nationaliste de l'époque. Ils montent des affaires là-bas.
Dans des clubs de jeux, etc.
Voilà, et d'un seul coup, sans doute pour de simples histoires d'argent, il y a une colère, il y a une dispute, il y a une espèce de schisme entre les deux familles.
Ouais.
Et en fait, ce sont les fils sont assez jeunes, qui reprennent le flambeau et qui, eux, entretiennent cette rivalité après derrière.
C'est ça, parce que le père Costella, dont vous parlez, il a été abattu, je crois, en 2005.
Il a été abattu en 2005.
Voilà. Et il aurait prêté donc de l'argent à Alain Orsoni ou à ceux qui et à ses collaborateurs pour cette histoire d'investissement, et les fils, c'est ça, Jacques Folleroux, après on dit mais faudrait rendre l'argent, quoi.
C'est ça. En fait, c'est des... Alors pour revenir à la première histoire, si vous voulez, vous avez en effet un groupe d'amis qui constituait une mouvance au sein du mouvement nationaliste qui jusque dans 89-91 était à l'époque encore un mouvement uni qui s'est divisé. Ça a donné naissance au mouvement pour l'autodétermination qui était dirigé, dont le président était Alain Orsoni. Auprès de lui et dans le premier cercle, vous aviez un certain nombre de personnages, notamment Francis Castola comme vous l'avez cité, mais aussi Antoine Nivaggioni, Paul Giacomoni, etc., Étienne Lovisi, etc. Et donc ces gens-là, si vous voulez, en effet, là, le mouvement nationaliste est rentré dans des logiques affairistes, ça a été démontré, criminogènes, et ils sont rentrés en affrontement avec des groupes de voyous purs, et ça a donné lieu, à un moment donné, pour sauver sa peau, au départ d'Alain Orsoni en Amérique centrale, au Nicaragua. Et c'est à ce moment-là qu'en effet, Francis Castola lui a prêté des fonds pour monter des affaires de machines à sous dans ce pays.
Oui. Alors, puisque vous évoquez cette période-là, on va écouter un autre document qu'on a trouvé dans les archives de la rédaction. Le 2 septembre 1999, il y a un coup de filet policier au Nicaragua où un certain nombre de gens sont arrêtés. Mais je crois que Alain Orsoni échappe à ce coup de filet. Hein, il n'est pas rapatrié en France comme les autres. Mais à cette occasion-là, sur RTL, Xavier Benerozo dressait le portrait donc d'Orsoni, qui était parti se faire un peu oublier au Nicaragua.
Le bel Alain, comme on le surnomme, que l'on disait à Miami, pas très loin des casinos, à l'élégance des beaux voyous. Un homme réputé intelligent et rusé, écrira le commissaire Broussard dans ses mémoires. Un nationaliste corse, chef de clan, dont le nom restera associé à celui de son frère, Guy Orsoni, retrouvé assassiné. Pour les militants, ses frères d'armes du canal habituel, Alain Orsoni a curieusement conservé un certain charisme. Il faut pourtant entendre ses petites mains de la lutte armée, écœurées de tout, raconter comment ils allaient déposer des bombes sur le continent ou prélever l'impôt révolutionnaire en étant hébergés dans des hôtels de 4 sous. Raconter comment à l'époque, ils savaient très bien que le bel Alain effectuait lui des escapades à Deauville dans des 4 étoiles, comment leur chef dilapidait les fonds du mouvement. Alain Orsoni aura surtout laissé son mouvement, le MPA, s'enfoncer dans la guerre sanglante des clans, dans les tentations mafieuses. Le MPA n'ayant plus rien à voir avec l'autodétermination, on l'appelle le mouvement pour les affaires.
1999, donc une pause tout de suite, et on va se retrouver avec mes invités ensuite pour continuer à parler à la fois de ce procès et de ce que l'on peut apprendre à l'occasion de ce genre de débat sur le fonctionnement de ce système mafieux en Corse. Évidemment, si vous avez des questions, c'est le 3210 pour le téléphone ou rtl.fr si vous préférez nous envoyer un courriel.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Les invités de l'heure du crime aujourd'hui, Jacques Folleroux, qui est journaliste d'investigation au journal Le Monde, et l'auteur de ce livre qui permet vraiment de mieux comprendre ce système extrêmement complexe installé en Corse, avec des tentacules, si j'ose dire, du côté du grand banditisme, du côté de certains mouvements nationalistes. Le livre s'appelle « La guerre des parrains corses ». Et Damien Delceni, qui est journaliste au service police-justice d'RTL et qui suit évidemment toutes ces affaires. L'émission, évidemment, nous la devons à ce procès qui a démarré le 11 mai, qui va se terminer le 3 juillet prochain. On reviendra tout à l'heure au procès, aux difficultés aussi de l'accusation, qui n'a pas, si j'ai bien compris, Damien Delceni, des masses de preuves matérielles
il n'y en a pas beaucoup.
Percutantes. Hein, bon, beaucoup de témoins, finalement, qui sont un peu fait excuser ou qui sont tombés malades ou qui sont partis en voyage. Donc on va revenir sur tout ça ensemble. Mais d'abord, Jacques Folleroux, que représente est-ce qu'on peut faire un peu d'histoire, finalement, et dire que représente ce clan Orsoni, même si le mot ne plaît pas à Alain Orsoni ?
Alain Orsoni, c'est un personnage flamboyant, c'est un personnage intelligent. C'est quelqu'un qui a, dans le passé, fait des études de droit sur Aix-en-Provence, d'ailleurs, ou Nice. Je me souviens plus exactement si c'est Nice ou Aix-en-Provence, en tout cas dans cette région. Et c'est quelqu'un qui est capable, qui a fait de la politique, qui est devenu un leader nationaliste, qui a négocié, qui a été directement impliqué dans des négociations avec le gouvernement, notamment au début des années 90 avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Pierre Joxe. Oui. C'est quelqu'un qui sait créer des rapports de force, qui a une lecture politique des conflits et des relations avec l'extérieur, avec la police, la justice, etc. Et c'est d'ailleurs encore son logiciel aujourd'hui, la façon dont il a abordé et dont il gère ce procès-là, il le gère encore en chef politique. C'est-à-dire qu'il crée des rapports de force avec l'institution judiciaire.
Et ça remonte. Le mouvement MPA, mouvement pour l'autodétermination que les mauvaises langues appelaient le mouvement pour les affaires.
C'est ça. Mais si vous voulez, c'est quand même un personnage qui a une vraie dimension intellectuel, c'est-à-dire qu'avant même que ce procès ne débute, des mois et des mois avant, il a à chaque fois que ça lui a été possible essayé de créer un rapport de force avec l'institution judiciaire, de faire pression sur cette justice en l'accusant de tous les maux, etc. Donc ce personnage-là, on l'a dit rapidement tout à l'heure, s'est retrouvé en conflit là avec des parrains locaux, il a dû fuir. Néanmoins, ces anciens nationalistes, ils ont pas tout perdu dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il y a sa garde rapprochée, elle a fait des affaires, elle a connu des succès. Antoine Ivajon était devenu, à l'époque où Alain Sonny était au Nicaragua, Alain Ivajon est devenu le patron de la première société, le premier employeur privé qui s'appelle la SMS, qui était une société de sécurité. Michel Moretti était devenu le président donc du club de foot d'Ajaccio, enfin de l'un des clubs de foot d'Ajaccio. Ils avaient aussi un des très proches qui contrôlait la chambre de commerce et d'industrie, qui elle-même est pourvoyeuse d'un grand nombre de d'emploi, qui a la main aussi sur la gestion des aéroports, du port, etc. Donc, donc ces gens-là pèsent sur la vie locale. Ils pèsent sur l'emploi, ils pèsent sur la vie locale, ils pèsent aussi sur la politique, et aussi ils génèrent évidemment une clientèle et des gens et des affidés. Donc ce sont ces gens avec des casquettes multiples, anciens nationalistes, il appartenait à la clandestinité, donc il y a aussi un versant de violence. Ils se sont entretués avec les autres nationalistes, ils ont fait la guerre aussi avec des voyous. Bon, et c'est ce personnage-là qui en 2008, Alain Orsoni va revenir en Corse. Et c'est vrai que après son retour, les choses vont changer. Et dans le procès qui a actuellement cours à Aix-en-Provence, on voit bien que le retour d'Alain Orsoni à Ajaccio va aussi accélérer les choses pour son fils. C'est-à-dire que Guy Orsoni, après le retour de son père, va tout d'un coup prendre une dimension, en tout cas au regard de l'accusation, une dimension criminelle de chef de gang et qui sera clairement à la manœuvre contre d'autres groupes, parce qu'en fait il y avait de multiples groupes qui se battaient pour le même fromage.
Oui. Damien Delceni, tout ce que rappelle Jacques Folleroux, c'est vous qui suivez évidemment beaucoup beaucoup d'affaires, et notamment touchant au grand banditisme, c'est très spécifique à la Corse, ce système qu'on décrit.
Oui, parce que la Corse repose souvent, c'est pas une caricature, c'est une sorte de système féodal, la Corse, en fait. La société corse fonctionne beaucoup comme ça, et ce clan fonctionne réellement comme ça, effectivement, avec avec un seigneur quelque part, et puis des obligés, des gens qui sont là pour qui sont à certains postes pour rendre des services en retour. Oui. Il y a des vitrines complètement légales, c'est-à-dire qu'on a des sociétés qui ont pignon sur rue, on peut avoir aussi, et bien sûr, des rapports avec certains élus aussi, etc. Donc, tout le système, c'est pas un système de trafiquants de stupes ou de voyous ancrés vraiment dans la délinquance. On a des gens qui sont, et c'est pour ça qu'on souvent le décrit comme un système mafieux, c'est qu'ils se sont complètement intégrés dans la société légale, entre guillemets. Ouais. Et donc, voilà, encore une fois, ils ont des entreprises, ils peuvent marcher dans la rue, ils peuvent aller serrer la main à un élu. Voilà, ils sont pas, c'est pas des gens qui vivent dans une clandestinité habituelle de voyous, de braqueurs de banque ou de trafiquants de drogue.
Oui, chaque fois.
Oui, non, c'est un point important. C'est-à-dire que en Corse, et ça c'est généralement pas assez souligné, c'est-à-dire que il n'est pas infamant d'être un voyou, par exemple. Le voyou est un acteur de la vie publique. Il arrive régulièrement que, par exemple, des gens...
C'est quoi ça? C'est le souvenir des bandits d'honneur qui prenaient le maquis pendant 40 ans
Non, c'est que c'est pas infamant. C'est aussi... Il y a une forme de reconnaissance sociale. C'est-à-dire que régulièrement, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas sur le continent, régulièrement, vous avez des figures de cette pègre insulaire qui peuvent être interrogées par la presse locale. Et vous aurez une page entière d'interview de cette personne, qui peut même être d'ailleurs en prison, et qui va s'exprimer sur les affaires courantes, sur la Corse, sur des thèmes publics. Oui. Et ça ne choque personne. Et si vous voulez, ça c'est aussi symptomatique de la espèce de glissement d'une société vers d'autres repères et avec ces personnages qui sont aussi légitimes finalement qu'un représentant de l'État ou qu'un représentant politique.
Alors, dans un instant, après une nouvelle pause, on va continuer à faire un peu d'histoire parce que certains disent que il y a eu une sorte de rebondissement dans les guerres larvées que pouvaient se faire un certain nombre de groupes criminels en Corse après la mort, qui n'était pas un assassinat pour le coup, mais un accident, de celui qu'on appelait le dernier parrain corse, s'appelait Jean G. Colonna. Et paraît-il que on pourrait expliquer une partie de ce qui se passe, de ces oppositions entre gangs rivaux, au partage d'un héritage qui, évidemment, intéresse beaucoup de monde. Alors, je vous demanderai votre avis là-dessus dans un petit instant, après la pause.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Guerre des clans en Corse à la une de notre émission on va retrouver maintenant Jacques Folleroux et Damien Delceni qui sont mes invités. On disait tout à l'heure que cette guerre des clans qui semble opposer plusieurs organisations criminelles en Corse pourrait s'expliquer par l'héritage d'un celui qu'on appelait le dernier parrain corse, Jean G. Colonna, mort dans un accident de voiture en 2006. Jacques Folleroux.
Alors, comme tout véritable système mafieux, il y a une histoire, il y a des redistributions de cartes, et alors ça remonte, j'ai envie de dire, on est sur encore une période de transition qui a suivi un équilibre de 30 ans. Qui s'est en Corse, vous aviez un équilibre criminel, mais qui n'était pas, comme l'a dit Damien tout à l'heure, qui n'était pas que criminel. C'est-à-dire que le phénomène mafieux, vous avez à la fois des voyous, vous avez gens qui font de l'argent, et vous avez aussi un échelon soit consulaire ou soit politique. Et au début des années 80, au moment d'ailleurs où la richesse ou la décentralisation a commencé à amener de la richesse sur l'île, les voyous se sont installés, alors qu'ils étaient avant à l'extérieur de la Corse, là ils se sont installés à demeure. Et pendant 30 ans, du début des années 80 jusqu'à la fin des années 2000, vous aviez un équilibre entre des gens dans le nord, on va dire qui était largement contrôlé par une banque qui s'appelait la Brise de Mer, et le sud, vous aviez en effet ce personnage emblématique qui s'appelait Jean-Jérôme Colonna, ancien de la French Connection, revenu après plus de 15 ans de cavale, qui était à cheval entre le juge de paix, l'arrangeur, et aussi le chef mafieux. Et Jean-Jérôme Colonna meurt dans un accident de voiture en 2006, et la Brise de Mer implose à la suite d'une guerre interne entre 2008 et 2009. Et parallèlement à cela, en effet, vous aviez ces forces, alors je vais essayer de ne pas perdre vos auditeurs, où après la mort de Jean G, vous aviez un certain nombre des petites mouvances, des petits groupes qui se sont imposés peu à peu, et c'est vrai que le petit bar, aujourd'hui, est présenté comme l'héritier de Jean G. Colonna. Et de l'autre côté, vous aviez, alors ça nous sort un peu de ce que j'ai décrit précédemment, mais vous aviez cette mouvance Orsoni, d'accord, qui était elle plutôt opposée à l'origine au clan Janger et qui s'est qui entendait défendre un peu ses intérêts. Et donc on a depuis 2008-2009, vous avez en effet ces deux forces en présence, le petit bar, les héritiers de Janger, et puis le clan Orsoni et consorts qui entendaient maintenir ses acquis, qui se sont affrontés de façon plus ou moins claire.
Et puis alors Damien Delsoni, il y a quand on commence à s'intéresser à ces histoires complexes, il y a beaucoup de sang quand même, il y a beaucoup de souvenirs terribles. Par exemple, le fils d'Alain Orsoni s'appelle Guy.
Oui.
Il y a une raison à ça.
Ben, il porte le prénom de son oncle qui a lui-même été assassiné, dont on n'a jamais d'ailleurs retrouvé le corps.
Oui.
Et il a été appelé Guy par son père en souvenir de son oncle. C'est vrai que ça marque déjà une quelque part un peu une destinée quand même.
Et là, pour revenir au procès, le scénario de l'accusation, c'est que il y a ce qu'on a dit sur cet argent prêté au Nicaragua, le fait que Alain Orsoni refuse de rembourser aux enfants après le décès de leur père cette somme, avec un argument qui est que je donne pas d'argent aux gens qui essayent de me tuer.
C'est une phrase célèbre, donc, le gibier n'a pas l'habitude de payer les cartouches des chasseurs.
Voilà, bon. Donc c'est ça quand même, en dessous de...
Oui, puis il y a presque dans leur logique, alors surtout dans la logique des enfants, des fils, il y a cette logique de l'assassinat préventif. C'est-à-dire qu'on est même presque plus dans la vengeance, c'est qu'on devance, c'est-à-dire qu'on se dit, je suis menacé par l'autre clan, donc je vais les liquider avant que ce ne soit eux qui me liquident. Il y a cette espèce de notion assez étrange de l'assassinat préventif, qui est presque un truc qu'ils ont inventé, parce que ça n'existe pas souvent. Alors souvent, on venge la mort de quelqu'un, eux, ils sont passés une étape supérieure, c'est qu'ils tue quelqu'un avant que ce soit l'inverse.
Ouais. Et oui, Jacques Follereau.
Non, c'est en écoutant Damien, ça me rappelle aussi un élément important, c'est que là on est à Ajaccio. Ajaccio, c'est quand même une toute petite ville. Et que c'est un grand village. Et que tous ces gens qui sont aujourd'hui face à face au tribunal, dans les années, au début des années 2000, c'est des gens qui étaient amis, qui jouaient aux cartes ensemble, qui allaient dans les paillotes ensemble, dans les boîtes de nuit ensemble. Et il y a eu en effet, il y a eu ce phénomène où chacun a, comment dire, repris un héritage, a repris des querelles qui n'étaient pas les leurs, qui étaient celles des parents, qui étaient celles des oncles, celles des cousins. Et les morts ont appelé ensuite, en effet, la formation de ces clans et ces autres morts. Et ça, c'est un élément qui est frappant avec ces jeunes qui sont aujourd'hui à Aix-en-Provence.
Alors, un mot d'explication, parce qu'on va entendre un autre document RTL. On va parler du fils de Guy Orsoni, fils qui est dans le box des accusés, là, pour le coup, sous une mise en examen pour homicide. Il est arrêté, en fait, en 2011. On va entendre, donc, dans un instant, Vanina Loca, qui revenait sur cette arrestation assez spectaculaire en Espagne. Pourquoi il était parti en cavale?
Qu'est-ce qu'il était prévenu?
C'était pourquoi? C'était déjà pour cette affaire de 2009.
Il était recherché sur plusieurs affaires, et il y a ce fameux coup de fil qui est passé la veille du coup de filet, ce qui est quand même un coup de fil assez fréquent en Corse, parce qu'il n'a pas été passé que dans cette affaire-là, mais la veille des interpellations, Alain reçoit un coup de fil passé d'une cabine téléphonique qui lui dit il y a une fête chez toi demain, ton fils est invité, et ce qui veut dire en langage de voyou que la police va débarquer pour interpeller tout le monde. Donc Guy prend la fuite à ce moment-là, et il part dans cette cavale qui s'arrête effectivement à Madrid quelques mois plus tard. Et c'est des choses qui sont malheureusement d'une banalité absolue dans de nombreuses affaires criminelles corses, puisqu'il y a un nombre de gens qui sont prévenus des interpellations la veille qui est quand même nettement supérieur à la moyenne nationale.
Alors, enfin, écoutez le récit de Vanina Loca, donc le 11 mars 2011, lorsque Guy Orsoni est arrêté dans un cybercafé à Madrid.
C'est pour rendre hommage à son frère, un militant nationaliste enlevé et assassiné en 1983, qu'Alain Orsoni a prénommé son fils Guy. Aujourd'hui âgé de 26 ans, il était en fuite depuis le 4 juin 2009 et avait déjà échappé de justesse aux enquêteurs à deux reprises. Le jeune homme est soupçonné d'avoir participé à plusieurs assassinats, celui de Thierry Castola, un pompier volontaire abattu en janvier 2009 près d'Ajaccio, mais aussi celui de Sabri Brahimi, un homme d'une trentaine d'années connu pour des affaires de drogue, tué en plein centre-ville par quatre hommes à moto.
rouge.
Guy Orson y a toujours clamé son innocence, tout comme son père, lui aussi mis en examen dans l'affaire Castola. Mais pour les policiers, le clan Orson y est tout sauf étranger à la vague de règlement de compte que connaît le sud de l'île depuis 2 ans. En mars 2010, alors qu'il est en cavale, Guy Orson y est également jugé puis relaxé par le tribunal de Perpignan dans une affaire de blanchiment liée à un trafic de stupéfiants entre la France et l'Espagne. L'Espagne où il a été interpellé hier et où son père a longtemps travaillé. Il devrait être extradé vers la France et présenté à un juge dans les prochaines semaines.
On fait une pause tout de suite et on retrouve mes invités dans un instant.
L'heure du crime sur RTL.
Guy Orsoni, dont on parlait il y a un instant, donc arrêté en 2011, a été incarcéré et il se trouve donc dans le box des accusés avec 10 autres personnes accusées à des titres divers d'avoir soit directement frappé, monté des guet-apens pour ces assassinats ou ces tentatives d'assassinat de 2009. Alors justement, Jacques Folleroux, Damien Delceni, est-ce qu'on peut revenir sur cette série qui a lieu finalement dans un espace de temps assez réduit, 5 mois entre juin, je crois, janvier et juin 2009, deux morts et une tentative.
Non, parce qu'il y a une chose, enfin, qui apparaît à travers le dossier. Hein, peut-être ensuite que la justice considérera qu'il est innocent des faits qui lui sont reprochés, mais l'enquête, elle lève le voile sur plusieurs aspects qui montrent que Guy Orsoni, il s'est totalement autonomisé du père. C'est-à-dire que on voit que il a monté une équipe, qui se comporte en donneur d'ordre.
C'est les écoutes téléphoniques qui permettent
parce qu'il y a aussi l'enquête sur ses complices proches. On voit il y a des lieux où ils vont où ils ont leur matériel, leurs équipements, leurs voitures, comment ça se passe. Et en effet, les écoutes ensuite entre le père, parce qu'il y a des écoutes téléphoniques lors des conversations entre le père et le fils Orsoni, où ils parlent de façon relativement libre, qui donne des clés de compréhension. Alors, peut-être étaient-ils eux-mêmes en train de tromper ceux qui les écoutaient, mais en tout cas, on essaie d'avancer à tâtons. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que Guy Orsoni, par exemple, vous avez cité le cas de l'assassinat de Sabri Brahimi. Quelques temps après, Sabri Brahimi donc vient voir une jeune femme, Vanina Pitiloni, dont il est très proche. Rue Fesch à Ajaccio, c'est la fin de journée, les magasins se ferment, d'ailleurs elle a fermé son magasin et il est adossé à son scooter et discute avec cette jeune femme. Tout d'un coup arrive, c'est elle qui le raconte, tout d'un coup arrive une première moto avec deux hommes cagoulés et casqués et une autre moto un peu plus loin. Et les hommes sur la première moto font feu sur Sabri Brahimi qui, si ma mémoire est bonne, essaye de protéger de son corps Vanina Pitiloni. Le scooter tombe, cette jeune femme tombe en même temps, sa jambe est coincée, donc elle ne peut pas bouger. Et la scène, elle la décrit dans ses procès-verbaux du début. Elle dit j'ai vu le pilote donner un coup de coude au passager pour lui dire de descendre. Et ce que le passager fait, il achève Sabri Brahimi de plusieurs balles dans la tête, relève sa visière. Et y a un échange de regards avec la jeune femme. Et quand elle est interrogée après, elle dit deux choses qui étaient assez inédites, enfin qui sont assez rares dans les procédures judiciaires insulaires. C'est que premièrement, elle dit il y a des fois on craint d'avoir reconnu quelqu'un, mais je ne peux pas vous en dire plus car je mettrai ma vie et celle de ma fille en danger. Et deuxièmement, et ça c'est à l'époque un vrai acte de courage, elle dit plusieurs semaines après. J'ai été convoqué par Guy Orsoni, dont elle est l'ex-amie, l'ex-petite amie. Donc elle est convoquée au village familial des Orsoni à Véro. Et là, il m'interroge, il me questionne sur ce que j'ai dit à la police, ce que j'ai vu, etc., etc. Ce qui était une manière d'amener dans cette affaire Guy Orsoni, de le montrer comme plutôt un chef de bande, etc.
Sans dire c'est lui que j'ai reconnu et qui a tiré.
Elle n'ira pas jusqu'à là, mais elle dit bien, elle dit je n'irai pas plus loin car ça mettrait en danger ma personne, etc. Après elle reviendra un peu sur ses propos.
Hein. Ouais. Alors Damien Delceni, il y a d'autres témoins, enfin quelques-uns hein, qui sont cités là dans le procès, notamment une femme qui, elle, aurait vu l'assassinat de Thierry Castola. Je pense que c'est Thierry Castola dans un village proche de...
Oui. Celle qui promène son chien, je crois.
Elle promène son chien, voilà. Qu'est-ce qu'elle raconte ?
Mais elle raconte qu'en fait, elle voit... Alors, pour juste résumer l'assassinat de Castola, il joue aux cartes dans un bar qui s'appelle Chez Joe, je crois.
Oui.
Et au moment où il sort, il passe par une espèce de véranda pour regagner son véhicule.
Oui.
Il y a des tireurs embusqués. D'ailleurs, je crois qu'on retrouvera le pas de tir. Il y a des branchages qui ont été écrasés à distance.
Oui.
Et il est fauché par un tir.
Mm-hmm.
Et effectivement, après, quand les tireurs... Il fait nuit, les tireurs regagnent leur véhicule, donc en passant par derrière. Il y a une femme qui passe... À ce moment-là, promène son chien et qui voit effectivement l'espèce de petit manège, des types qui regagnent leur voiture avec des cagoules, manifestement des armes, qui montent dans la voiture et qui s'en vont.
Oui.
Et elle donnera une description qui n'est pas d'une précision absolue, mais qui donne quand même d'abord à peu près un nombre de personnes présentes, des véhicules, etc. Quoi.
Oui.
Et c'est très rare les témoins. Il y a eu beaucoup de témoins sous X dans cette affaire. Ça a fait d'ailleurs l'objet de nombreuses polémiques parce que on savait pas quel crédit il fallait donner à des gens qui témoignaient sous X de manière totalement anonyme. Mmh. Ça a été un des gros combats de la famille Orsoni aussi pour démonter la procédure et démonter l'enquête.
Oui. En disant c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme.
Voilà. Et après il y a des éléments alors qui sont eux aussi qui peuvent paraître assez ténus. C'est les éléments de téléphonie parce qu'il y a eu un travail de téléphonie. On peut en dire deux mots qui est quand même assez extraordinaire dans ce dossier, c'est-à-dire que il a fallu retrouver ce qui est un réseau de téléphonie clandestin entre eux. C'est-à-dire que Guy Orsoni, il a, comme beaucoup de voyous, plusieurs téléphones, il en a un avec lequel il ne correspond qu'avec ce petit groupe de personnes qui semblent être ses complices, peuvent être des co-auteurs, qui peuvent être des tueurs, etc. Mmh. Et tout ce petit monde fonctionne en circuit très fermé avec des téléphones portables qui sont évidemment pas à leur nom, mais les enquêteurs ont réussi à retracer un peu l'historique de tous ces numéros, donc leur déplacement, donc le moment où ce téléphone bizarrement se coupe d'un seul coup, quasiment tous en même temps, même jour, à la même heure.
On ne sont pas sur écoute, mais
non,
c'est
mais on les suit,
les moyens techniques,
on suit leur déplacement. Et par exemple sur l'affaire Brahimi, on sait que ils sont à un moment donné en groupe, puis d'un seul coup les téléphones se coupent, puis certains se rallument juste après. Et puis ça permet aussi de comprendre une autre chose qui est aussi quelque chose d'assez fréquent en Corse, c'est les déplacements Corse continent qui se font de manière totalement clandestine par les ferries. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs de ce qui ont voyagé entre souvent Aix-en-Provence, Marseille et la Corse de manière totalement secrète, puisqu'ils montent dans des ferries avec la complicité d'employés de ferries.
Ils ne payent pas un billet, quoi.
Ils payent pas. Non seulement ils ne payent pas de billet, mais en plus, il n'y a aucune trace de leur passage sur ces ferries. On se rend compte dans ce dossier qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours entre le continent et la Corse aux dates qui correspondent à l'assassinat notamment de Brahimi. Et puis après, juste pour clore les déplacements de ce petit groupe, toujours ce petit groupe autour d'Orsoni, juste après, ou très peu de temps après l'assassinat de Brahimi, tout le monde s'envole vers la République dominicaine, alors à l'exception d'un qui a perdu son passeport et qui s'en rend compte à l'aéroport en arrivant et qui peut pas partir et qui est obligé de redescendre, mais tous les autres, bizarrement, vont se mettre au vert en République dominicaine juste après l'assassinat de Brahimi. Alors, ils considèrent que c'est des vacances.
C'est toujours la même chose, il n'y a pas de preuves.
Voilà, il y a un faisceau, comme disent les enquêteurs, il y a un faisceau d'indices qui fait quand même cumuler à certains témoignages, y compris des témoignages sous X, et y compris à tout ce qu'on a rappelé avant, c'est-à-dire tout l'historique, tout l'arrière-cuisine de tout ça, qui fait que... Voilà.
Oui, un mot avant la pause.
Oui, non, ça montre le problème des témoins sous X, le problème des rétractations de témoins, etc. Ça rappelle aussi une chose, c'est-à-dire que comme on est confronté à un véritable système, un phénomène mafieux, qui est le seul d'ailleurs à fonctionner de la sorte en France, si jamais la justice n'a pas les outils, elle ne jouera pas à jeu égal. Et c'est vrai qu'à certains égards, d'ailleurs, les cours européennes ont souvent critiqué le recours au témoignage sous X. Mais tant que un pays comme la France, l'État ne reconnaît pas finalement ne fait pas un diagnostic précis de la force et des moyens dont dispose un système mafieux qui est capable de peser sur les témoins, qui est capable de peser de mille manières sur le cours d'une affaire judiciaire, l'État n'arrivera jamais à faire reculer son pouvoir.
Alors, on fait une pause et puis on va parler un peu du procès, de ce qu'on peut dire, puisque ça va durer jusqu'au 3 juillet. Il y a des jurés qui, pour certains, doivent découvrir un peu ce monde-là. Il y a une accusation, il y a des policiers qui ont déposé, bien sûr, et il y a des avocats qui ont contesté, évidemment, c'est aussi leur travail, un certain nombre de choses. On va essayer de faire le point un peu sur l'état du procès, ce qu'on peut en attendre.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Avec mes invités, Damien Delceni du service police-justice d'RTL, Jacques Folleroux, journaliste d'investigation au Monde, connaît particulièrement bien ce dossier de la guerre des clans et en Corse. On essaye de remettre les choses en ordre, de mettre... Et c'est vrai, quand je disais au début de l'émission que ça, je me mets à la place des jurés, c'est... C'est extrêmement compliqué pour eux de suivre tout ça, non ?
Alors, Jacques Folleroux. Oui, en même temps, c'est vrai que c'est des sujets qui nous intéressent tous les trois. On parle un peu de, on fait de la sociologie du banditisme, on fait un peu de l'histoire du phénomène mafieux en Corse. Mais faut bien rappeler que les jurés, ils ne jugent pas sur ces éléments de contexte. Ils jugent des faits, une procédure, des charges qui sont démontrées ou pas, et jusqu'au jugement final. Pour l'instant, ils sont encore présumés innocents.
Oui, bien sûr, mais quand même, Damien Delceni, on peut dire des maintenant, même s'il y a ce que vous disiez tout à l'heure, un faisceau d'éléments qui évidemment ciblent ceux qui sont dans le box des accusés, il n'y a pas de preuves matérielles formelles, il y a des témoignages mais qui peuvent être contestés. Finalement, les jurés et la cour d'assises va fonder son verdict sur son intime conviction.
Ah oui, clairement. Et puis pour comparer avec d'autres dossiers entre guillemets plus simples, il n'y a pas d'aveu, bien évidemment. Oui. Il n'y a effectivement pas de témoignage direct décisif. Oui. Il n'y a pas non plus de balistique, c'est-à-dire il n'y a pas d'armes retrouvées. Il n'y a pas tous les éléments qu'il peut y avoir dans d'autres affaires criminelles un peu plus classiques où on a au moins un début de preuve ou quelque chose qui peut. Là, on a. Quelque part, alors ça a été le gros argument des avocats du clan Orsoni, entre guillemets, et de la famille Orsoni, ça a été de dire, en gros, c'est tout ça est une construction policière. Voilà. Oui. Toute cette histoire est une espèce de gigantesque Lego monté par la police pour expliquer que comment, depuis 10 ans, tout ça était, on en était arrivé là. Donc eux, c'est vrai qu'il y a quelques éléments du dossier qui sont une forme de construction policière, mais qui est pas une construction qui leur sort de la tête, qui est aussi, avec ce qu'ils savent d'autres dossiers, avec ce qu'on l'a dit tout à l'heure, un peu de téléphonie, quelques rares témoignages, mais il en existe quand même. Et puis un contexte aussi qui est, une concordance des dates, certains déplacements qui sont quand même un peu bizarres. Il y a aussi, sans rentrer dans le détail du dossier, ce serait trop compliqué, mais il y a aussi un des membres de l'équipe, entre guillemets, d'Orsoni, Tarpignan, qui est d'ailleurs un des rares à pas être corse dans toute cette équipe, qui lui s'est désolidarisé assez vite de la version officielle vendue par tout le monde, et qui lui avait été en quelque sorte rencontré par Orsoni dans d'autres dossiers, plus d'ailleurs de trafic de stupes, et que Orsoni avait mobilisé dans son équipe pour éventuellement venir en Corse. Je crois qu'à l'époque on lui avait demandé de venir bouger quelqu'un, alors lui pas trop ce que ça voulait dire bouger quelqu'un, et quand il s'est rendu compte du terme, pas de quand il s'est rendu compte de ce que j'essaie de bouger quelqu'un de cette façon là il a fait machine arrière, et lui c'était un des rares qui a confirmé plusieurs fois le fait qu'effectivement lui dans son esprit il allait participer à un règlement de compte et pas au fait de bouger quelqu'un.
Mais ça reste encore
un des témoignages qui peut mettre en difficulté Orsoni, mais c'est pas non plus, et puis c'est la parole d'un autre voyou contre un autre voyou, donc c'est
ce que disait Al Capone, c'est plus facile d'obtenir quelque chose gentiment avec un revolver. Jacques Folleroux, il y a un personnage dont on n'a pas parlé, vous me disiez hors micro que c'est un personnage important dans cette histoire du clan Orsoni, c'est Roger, c'est l'oncle.
Bon, Roger Orsoni, qui à ma connaissance n'est pas poursuivi dans ce dossier, c'est vrai que dans l'histoire familiale et clanique au sens un peu plus large du terme des Orsoni, Roger c'est un personnage qu'on voit apparaître dès le début des années 80. On a rapidement fait allusion en effet à la mort du frère d'Alain Orsoni, donc Guy Orsoni. D'ailleurs, ce qu'on sait maintenant, c'est que Guy Orsoni, qui était à l'époque comme Alain, un jeune militant nationaliste à fond dans la clandestinité, il est mort à la place de son oncle, justement, à la place de Roger. Parce qu'au début des années 80, vous aviez encore un trafic de stupes internationaux et qui concernait beaucoup de Corses, beaucoup de Corso marseillais, etc. Et visiblement, ce que l'histoire dit aujourd'hui, c'est que Roger Orsoni aurait fait pression sur des gens. Dans un but qu'il n'a jamais évoqué, mais aurait fait pression sur des gens qui, pour se défendre, aurait fait appel à des voyous locaux, à la bande du Valinco. Et la bande du Valinco, elle aurait réagi, alors, un peu à l'Al Capone, plus qu'à l'Al Capone, c'est-à-dire à la fois méchamment et avec des armes. Et ils auraient donc tendu un guet-apens à Roger Orsoni. Et le problème, c'est que celui qui conduisait la voiture de Roger Orsoni au moment où ils sont intervenus, c'était Guy Orsoni.
C'était Guy,
voilà. Et on a pu retrouver ça. Et c'est un moment fondateur aussi, même pour aujourd'hui, la mythologie nationaliste, parce que, en réponse à cet assassinat, il y a eu, l'opération commando nationaliste au sein de la prison d'Ajaccio pour aller tuer, ceux qui s'en étaient pris, justement, à Guy Orsoni. Ça a été politisé, par le mouvement nationaliste et qui en a fait, justement, un étendard de combat contre l'État colonial. Alors que c'était à l'origine, c'est vraiment qu'une affaire de droit commun, de trafic de stupes, de voyous. Quoi. Alors, et Roger Orsoni, c'est vrai qu'il a aussi joué, je finis là-dessus, joué un rôle important auprès du jeune Guy Orsoni, parce que pendant tout,
il y a eu toutes les années où son père était au Nicaragua, ou à
Barcelone, au sein de la PFACO qui fait dans les machines à sous, finalement, le fils, il a vécu avec son oncle. Donc aujourd'hui, on s'interroge beaucoup, en effet, sur cette influence qui a pu être néfaste.
Un dernier élément sur lequel je vais vous demander un éclairage, Damien Delceni, ça joue pas directement sur le procès, mais c'est peut-être un signal, mais vous allez me le dire. Il se trouve, alors, hasard du calendrier ou pas, qu'un certain Jacques Santoni, qui est un homme qui est tétraplégique à la suite d'un accident de moto, qui est considéré comme le patron, quoi,
le parrain
du petit bar, a été incarcéré. Tout récemment.
Il a été remis en examen dans des affaires où c'est mis en examen.
Comment il faut comprendre ça? Puisque là, le petit bar, c'est plutôt les plaignants, là, puisqu'on juge.
Là, sur cette affaire-là, oui, le petit bar est aussi soupçonné d'être derrière les assassinats de notamment de l'avocat Solacaro et sur bien d'autres dossiers, etc. Je voudrais juste revenir une dernière fois sur le procès, d'ailleurs, en lui-même de Aix qui se lance, parce que pour nous, ça nous paraît normal parce qu'on le sait, mais je pense que les auditeurs vont quand même apprendre quelque chose. C'est qu'au procès de Guy Orsoni, il y a donc le fils qui est dans le box, il y a donc son père qui est dans la salle qui est renvoyé, mais il y a aussi sa maman, parce que sa maman est avocate, c'est une pénaliste très reconnue corse, et elle défend son propre fils. Alors nous, ça nous paraît presque normal, mais il faut quand même imaginer la scène d'un procès d'assises où il y a le fils dans le box, la mère avocate qui le défend bec et ongles depuis des mois, et le père qui est aussi renvoyé. Ça donne aussi l'image d'un dossier qui n'est pas tout à fait, et d'une région qui n'est quand même pas tout à fait comme les autres.
Je vous remercie beaucoup. Merci Damien Delceni. Merci Jacques Folleroux.
Merci.
Et je renvoie tous ceux qui sont passionnés par ces histoires complexes mais passionnantes à votre livre, La guerre des parrains corses, qu'on trouve donc maintenant en livre de poche chez J'ai lu. L'émission est terminée. Très rapidement, on va rejoindre Flavie Flamand.
Vous écoutez RTL.